Ça me fait penser au débat, tu parlais avant des étrangers et des peurs qu'on a, c'est que c'est justement la misère, parce que souvent on parle de criminalité, en tout cas en Suisse, chez vous, j'imagine aussi, les criminalités des étrangers ou des immigrés, sauf qu'on oublie, on dit que c'est plus élevé, etc. Et puis c'est vrai, si tu regardes les taux d'occupation dans les prisons, il y a plus d'étrangers, en tout cas proportionnellement clairement, que des Suisses de souche. Mais le problème, ce n'est pas ça, ce n'est pas une question d'origine ou de culture, c'est une question de profil, parce que si tu prends les jeunes, déjà hommes, jeunes et dans la misère, et beaucoup d'immigrés, enfin ceux qui sont bien, ils restent chez eux. Voilà, c'est un peu simpliste ce que je dis, mais quand même, tu vois, si tu prends ces critères-là, être dans la misère, jeune et homme, là, tu es déjà beaucoup plus prédisposé à la criminalité. Donc c'est normal si tu as des groupes d'immigrés qui sont composés de ce type de personnes, que ça augmente le taux de criminalité, pas parce qu'ils viennent d'un certain pays ou autre, mais parce qu'ils représentent ce type de personnes.
Oui, bien sûr que le conflit. Je me souviens, il y avait en 1976, 77 par là, ou 75, c'était dans ces années-là. J'étais jeune, j'avais 16 ou 17 ans, et donc il y avait un ministre de la Justice, et un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Michel Poniatowski. Je lui fais l'honneur de le citer parce que il avait dit quelque chose qui m'avait choqué. Bien que j'étais gamin, hein. Il avait dit la délinquance vient de 25% de la population française qu'il faut mettre sous haute surveillance. Alors, il se trouve que
Ça fait beaucoup de boulot, hein.
ça faisait beaucoup de boulot pour la police déjà à l'époque, hein, mais il y avait 50 millions de personnes en France. Maintenant, on approche des 70, hein. Mais il y en avait 50, parce qu'il y avait un journal qui s'appelait 50 millions de consommateurs, je me souviens aussi de ça. Et donc, c'était quand même l'idée que la misère est génératrice de délinquance. Et la misère est génératrice de violence, mais il ne faut pas croire, quand même, que la conflictualité est liée à la misère. C'est pas vrai. La conflictualité, il se trouve que c'est lié à l'absence de connaissances pour pouvoir réguler les relations. Alors, il y a des gens qui le font très spontanément, il y a des gens qui vivent pas de situations conflictuelles, mais je dirais que dès lors que l'on entreprend quelque chose et que l'on vit en société, ben, on s'expose au moins à voir les autres dans une situation conflictuelle, à vivre et à prendre parti. Ou à ne pas prendre parti, ce qui est un parti pris aussi, hein, de laisser faire. Hein, c'est impossible de ne pas avoir une vue sur de la conflictualité quand on vit. Et on peut voir que personne ne s'est vraiment intéressé à savoir comment enseigner des pratiques qui sont de nature à aider les personnes à faire face à ce qui est générateur de conflit en soi. Alors, mais c'est récent. Il y en a, quand je dis personne, avant, je dirais les années 70. Il y en a eu un petit peu parce qu'il y a quand même eu des bouquins absolument extraordinaires, même si il fait pas bon de citer Carrel, qui a eu des accointances avec des nazis, mais qui avait écrit un bouquin absolument extraordinaire qui s'appelait L'homme, c'est inconnu, et qui était un bouquin de recherche sur le fonctionnement humain et de développement personnel. J'ai eu le plaisir de le lire. Alors, sans savoir qui était l'auteur, hein, bon, ouais, il a dérapé, quand il a écrit ce bouquin, c'était vraiment une réflexion sur la manière de comprendre comment on fonctionne et de se dire, on peut rechercher encore plus à comprendre comment on fonctionne, parce que c'est en comprenant ça que l'on va faire face à la conflictualité et que l'on va se dispenser des systèmes autoritaires. Alors, c'est ambitieux. Mais tu peux entendre ici une aspiration d'un positionnement sociétal. Oui, je suis pas favorable au système autoritaire, mais je comprends que tant que nous en sommes là, de notre culture, bah, le référentiel autoritaire sera nécessaire. Mais il faut faire évoluer la culture.
Passons peut-être un petit peu aux méthodes. On a beaucoup discuté des courants de pensée, de la philosophie, de ces questions-là. Parce que ce que tu viens de dire, ça me fait penser à un chapitre, un sous-chapitre dans ton livre qui s'appelle Médiateur à la fois neutre et engagé.
Oui,
Ça m'a interpellé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
je crois que j'ai déjà montré que sur le plan postural, je suis engagé dans une représentation de la vie en société. C'est-à-dire que pour moi, l'altérité, c'est-à-dire l'altérité, c'est accueillir les autres, c'est l'accueil, c'est pas une tolérance, hein. C'est une posture d'accueil des autres en tant qu'ils sont autres. Alors, ça veut dire que l'altérité aussi, ça s'enseigne pour que l'autre, quand il vient, qu'il apprenne aussi à être dans l'accueil d'autrui.
Il y a
Donc,
cette belle phrase, attends, j'essaie de mémoriser. Je crois que, alors, c'est-à-dire, sois toi-même, parce que tous les autres sont déjà pris.
ça. Oui, c'est clair. C'est clair que il vaut mieux être soi. Déjà, et c'est aussi être dans l'accueil d'autrui. Donc oui, je suis engagé, je suis, comme je l'ai déjà dit, par rapport à une relation de conflit, j'ai été militant, engagé, très, très fortement engagé, et j'ai des engagements qui sont très forts pour ce qui est de la paix. Je suis pas dans une logique que Gaston Boutoul, qui a écrit des bouquins, qui avait créé une méthode qui s'appelait la polémologie. Gaston Boutoul avait dénoncé les pacifistes bêlants. Et j'avais bien aimé ça parce que je suis pas très manifestant, moi. Je vais pas bêler, mais je peux comprendre. Mais je pense pas que ça serve à grand-chose. Je pense qu'il faut pousser dans les institutions pour qu'il y ait des transformations importantes en matière d'éducation, d'instruction, et d'aider ceux qui décident, ceux qui mettent en place des processus. Hein, on le voit, c'est possible, hein, parce que je vois ce que depuis 25 ans, ce que j'ai contribué à faire bouger, oui, je pense que c'est possible. Bon, il faut du temps, parce que les gens dans les rouages institutionnels ont des difficultés à évoluer. Et il y a des habitudes de pensée qui sont pas faciles à faire bouger, mais ça bouge. Moi, je suis convaincu, je le vois bien, depuis que j'ai été consultant d'entreprise et que depuis que j'ai mis les pieds dans la médiation, alors que ça n'existait pas il y a 25 ans. Et 25 ans, quand j'ai créé le certificat d'aptitude à la profession de médiateur, il n'y avait rien. Sur ce terrain-là, hein, il y avait déjà le mot médiation était utilisé, mais le mot médiation était confondu avec la conciliation, c'était confondu aussi avec des systèmes d'autorité, le médiateur de la République, par exemple, hein, c'était très confusionnel. Donc, quand j'ai proposé ça, ça a créé un sacré choc, parce que là, les gens se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'existera jamais,
Et
etc.
là, tu t'es inspiré d'où? Je sais que ça existait déjà aux États-Unis. En Suisse, on dit, oui, justement, c'est à peu près les années début 2000, ça a commencé. Il y avait un peu avant une ou l'autre formation, mais très, 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 très peu. C'est vraiment autour des années 2000 qu'il y avait les premières associations. La Fédération Suisse, je crois que c'est 2004.
Oui.
Mais c'était vraiment tout au début. Donc, toi, tu t'es inspiré d'où? Ça venait d'où?
Alors, moi, j'ai eu cette idée de la médiation quand j'ai lu un bouquin de Thomas Gordon,
Ah, qui est la conférence de famille. Ouais.
qui a écrit plusieurs bouquins sur l'époque. Hein, j'étais consultant Gordon Management. Et donc, en 1987, je m'intéresse à la résolution, à la gestion des conflits, parce qu'on disait ça comme ça. Et je disais, ça, c'est une très, très mauvaise manière d'aborder le sujet, parce que gérer des conflits, ça veut dire les rentabiliser. Hein, si je gère bien un compte en banque, je le rentabilise. Si je gère bien quelque chose, je n'efface pas ce que je gère, je l'entretiens. Donc, je trouvais que l'expression gérer un conflit était tout à fait impropre. Et donc, je me suis dit, ce qui m'intéresse, moi, c'est peut-être gérer les tensions, hein, et résoudre les conflits en tout état de cause. Et donc, on était en 1987.
Pardon, on parle du même Gordon, c'est lui qui travaille beaucoup sur les familles.
Thomas Gordon, oui.
C'est ça, il fait des
Cadre et dirigeant
conférences de
efficace.
famille. Ça.
Parent efficace.
Ok, ouais, ok.
Il a écrit trois bouquins, enfin trois, plusieurs, quatre même. L'autonomie enseignée aux enfants, je crois que ça a été le dernier. Le premier, ça a été Parents efficaces, c'est un Américain, hein. Le deuxième, c'était Cadres et dirigeants efficaces. Le troisième, c'était Effectiveness Training, hein, c'était sa formation. C'était Enseignant efficace. Et sa femme, pour tout dire, avait écrit un bouquin qui s'appelait Femme efficace. Hein, donc, c'était un élève. Enfin, il disait qu'il avait été élève de Carl Rogers,
Du
comme
coup, le médiateur professionnel, c'est le médiateur efficace.
figure-toi que ça m'avait tenté. Ça
Okay.
m'avait tenté d'appeler ça comme ça. Mais bon, c'était le même courant que Gordon, Rogers et donc Rosenberg, par exemple, la communication non violente.
Ouais.
C'est le même courant de pensée psychosociale avec l'idée de la bienveillance. Alors moi, ça, je me suis éloigné de tout ça. Mais je peux reconnaître très facilement que l'inspiration de l'idée de médiation m'est venue à ce moment-là. Mais on était en 1987, j'écris pas, il y a une journaliste qui m'interviewe à l'époque, et puis qui me dit, pour une revue qui s'appelait L'enjeu humain, elle me dit, mais qu'est-ce qui vous différencie des autres? Alors je lui réponds, je m'intéresse à la médiation. Donc on est en 1987. La médiation, c'est quelque chose qui est très très peu. Le mot, l'expression est très peu utilisée. Il y a ici et là, aux États-Unis, la confusion est faite entre médiation et négociation. En France, en Suisse et dans les pays, même à l'Allemagne, la confusion est faite entre conciliation et médiation et négociation. Et quand la médiation à l'américaine, la négociation raisonnée se développe avec l'idée de la médiation pour faire des gagnants-gagnants. On est dans l'idée d'une représentation économique de la relation pour faire gagnant-gagnant. Et ça se développe au Canada. On est en 1990-95. Ça vient en France par le biais de l'Europe. Et ça vient en Suisse aussi, pareil, par le même biais de l'influence européenne, avec le côté sur les problèmes de quartier qui n'existent pas trop. Enfin, à l'époque, ça n'existait pas trop, ni à Genève ni à Lausanne, mais ça existait surtout à Paris et dans les banlieues parisiennes. Et ça, c'est des médiations qui sont des négociations entre la police et les bandes. C'est comme ça que ça commence, le concept de médiation urbaine. Et en matière judiciaire, avec le divorce qui est accordé aux femmes, il faut se rappeler quand même de ça, hein, l'évolution du droit, eh bien, il y a un élément qui est changé, qui fait que pour pouvoir aider les hommes à ne pas abandonner les enfants lors des divorces qui sont prononcés à l'avantage des femmes, eh bien, des médiations sont proposées et c'est appelé des médiations familiales. L'inspiration vient du Canada, en passant par l'Europe et la généralisation européenne. Et c'est la médiation familiale qui voit le jour, qui se développe. À l'époque, il est un peu question de médiation dans la vie d'entreprise, mais très peu. Et moi, je m'intéresse à ce côté-là. Il y a des journalistes qui s'intéressent à ce que j'écris à l'époque. J'écris quelques articles ici et là. Et je suis interviewé par un journaliste d'un journal qui s'appelait La Tribune, qui parle de moi et qui parle d'un curé qui s'appelle Jean-François Six, qui a été mis en cause après dans l'évêché, qui a perdu sa prêtrise, etc., pour d'autres raisons, peu importe. Et donc, ils m'interviewent et Jean-François Six dit de moi, il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Parce que je dis que le médiateur doit se faire payer. Et lui, il est pour que le médiateur soit pris en charge par l'État. Et moi, je dis, non, c'est une profession qui est libre. C'est une profession potentiellement libérale ou que les gens peuvent exercer en interne dans les entreprises en tant que salarié. C'est une profession. Et donc, Jean-François Six n'est pas content parce que je conteste sa représentation religieuse. parce que pour lui, c'est le médiateur, ça doit être quelqu'un qui est inspiré du courant religieux, c'est quelqu'un qui doit être bienveillant, enfin, qui doit avoir plein de, il doit croire dans l'humain, c'est l'humanisme, hein, c'est comme après, il y a un autre auteur qui s'appelle Jacqueline Morino, qui avait été formé par Jean-François Six, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait L'esprit de la médiation, et donc qui était très très engagée religieusement. D'ailleurs, elle a impulsé la médiation humaniste, qui est une représentation également religieuse, même si ceux qui sont dedans ne s'en rendent pas compte, c'est très très influencé. Donc moi, oui, c'est vrai que je ne suis pas, je suis engagé sur le terrain de la médiation. Je suis engagé sur le terrain sociétal. Je suis un militant très fort. Donc pour moi, là, c'est vrai que quand on développe une profession, bah, il faut y croire dans la profession. C'est pas une religion, mais il faut être investi, il faut avoir envie que ça marche. Et donc pour ça, j'ai proposé d'autres choses. On peut en parler un petit peu sur le droit à la médiation, par exemple. Mais c'est ça, mon engagement, il est là. Il est pour une société qui se dispense au mieux du système autoritaire. Et des systèmes autoritaires. Donc ça veut
Ouais, là
dire
je crois qu'on
enseigner la
est
liberté.
effectivement dans ma conception aussi dans l'esprit de la médiation, le participatif, la liberté, le tout partagé, la transparence. Si on parle un petit peu de méthode, donc tu as développé cette méthode, et ce qui m'intéresserait, moi j'ai vu que tu as par exemple tu as 6 phases. Je vais vite les citer. La première, la phase de création de contexte. Ensuite, la phase d'expression, la phase de définition, la phase de résolution, la phase de validation, la phase de conclusion. Donc, ouais, c'est un peu similaire. Ça colle pas exactement avec certains connaissent sous les 5 phases de médiation. En fait, ma question, c'est quelle est la particularité de ton approche par rapport à d'autres approches de médiation, peut-être plus classiques ou voilà.
Alors, la particularité, je dirais qu'il y en a même plusieurs particularités. Hein. Je vois qu'il nous reste 1 minute 51 sur ton enregistrement, là, sur ton compteur. Ou en tout cas.
Non, non, il reste ça, c'est plutôt qu'on est bientôt à 1h50, je crois, c'est plutôt ça.
D'accord. Alors, non, parce qu'il y a 1 heure, il y a 1 h 30, il reste 1 minute 36, là, de ce que je vois. Mais peut-être que.
Moi je vois pas ça, tu vois ça où?
Ouais. Ben sur la droite là, de mon écran, là, il y a marqué enregistrement 1,26, 1,25, 1,24. C'est des minutes qui s'écoulent.
Écoute, on continue, je passe ça, sinon on reprend, on se reconnecte au cœur.
D'accord. Alors, donc, ce que la particularité, je veux dire, il y en a plusieurs. D'abord, je vois que tu es sceptique par rapport à ce que je
Ouais,
t'écoute.
tu m'as fait peur là. Mais allons-y. Au pire, on se
Alors,
reconnecte. Je vais coller ça dans le montage.
ben là, je suis à peu près sûr que ça va couper, hein, parce que c'est bon. Alors, on fait comme si. Et donc, l'idée pour moi de l'originalité de la médiation professionnelle, c'est d'abord le résultat. La première des choses, je le dis, moi, je suis centré sur le résultat et je sais d'avance qu'il y a 3 issues possibles. Dans la perspective de l'élaboration d'un projet relationnel. Il n'y a que 3 issues possibles lorsqu'on travaille sur la médiation. La première issue, c'est la reprise de la relation telle qu'elle était avant, la relation conflictuelle. La deuxième, c'est l'aménagement relationnel. Et la troisième, c'est la rupture consensuelle. Là, on est sûr que il n'y a pas d'autre issue possible. Sinon, c'est des issues d'adversité. Là, ce sont 3 issues d'altérité. Donc, voilà l'une des originalités de l'approche de médiation. Là, mon compteur est arrivé à zéro. Alors, je ne sais pas ce que
Alors
ça veut dire.
que ça tourne encore, je crois.
Ouais, là, ça tourne encore. Bon.
C'est peut-être ton
Alors,
compteur pour aller faire du sport ou un truc comme ça, non?
non, 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 je t'assure que non. Temps restant, il y avait marqué temps restant, hein, je t'assure. Durée de la réunion, 1 h 24. Ah ouais,
Ouais.
c'est. D'accord, bon. Alors, donc, ben, ça va peut-être amuser les gens de voir qu'on s'amuse aussi avec le compteur.
Sans doute.
Et donc, 3 issues possibles quand on a une médiation. C'est-à-dire que quand j'applique mon instrumentation, mon processus, qui est un processus structuré qui commence par des entretiens individuels systématiques. Toi, tu as dit tout à l'heure, parfois, je fais des entretiens individuels. Moi, c'est systématique. Il n'y a jamais, jamais, et tu m'entends bien, jamais, de situation où je ne fais pas d'entretien individuel. Même si la personne me dit, monsieur, ce qui m'est déjà arrivé, j'ai déjà vécu une médiation, je sais ce que c'est, ben, je lui dis, monsieur, il se trouve que vous n'avez pas appris grand-chose si vous êtes encore en conflit. Donc, je vais vous proposer un entretien individuel.
Ça, c'est intéressant. Je cherche son nom. Il y a un Allemand qui a développé une approche type médiation qui s'appelle Klärungshilfe en allemand. Je ne sais plus comment il s'appelle. Thomann, je crois. Donc, ouais, Christophe Thomann. Et lui, il dit, alors, j'ai entendu ça par d'autres personnes qui ont suivi sa formation, mais ce qu'il dit, justement, il ne faut pas faire des séances individuelles. Et son argument, c'est de dire que si on fait des séances individuelles, il y a l'émotion qui sort, il y a déjà des émotions et des propos qui sont évacués. Et moi, j'en ai besoin dans ma médiation.
Oui.
Et moi, je peux comprendre cet argument-là. Je peux aussi comprendre l'argument de dire, dans certaines situations, peut-être c'est mieux de véhiculer un peu avant de se rencontrer. Donc, c'est comme pour tout. Moi, j'essaie de ne pas être trop dogmatique sur une chose ou l'autre. Voilà, là, peut-être aussi c'est au cas par cas, mais toi, c'est quoi l'argument de toujours faire de
Alors, je vais te dire, son approche déjà, elle est très influencée par l'approche systémique. C'est typique de la systémie, qui vient de Palo Alto, enfin toutes ces approches-là, qui sont des approches de thérapie, de thérapie systémique. Moi, je ne suis pas un psychothérapeute, et je suis plutôt je fais de l'ingénierie relationnelle. Donc, mon argument, c'est que j'aide les personnes à structurer leurs pensées. Mon argument, c'est que le conflit contribue à la déstructuration de la pensée, qui n'est déjà originellement pas très structurée. Tu vois,
On peut le dire.
c'est hasardeux. C'est hasardeux, tu vois. Je m'intéresse beaucoup à des choses comme ça, tu vas voir. Je m'intéresse beaucoup à un truc comme ça.
Le cerveau, pour ceux qui nous écoutent.
Voilà, c'est un cerveau. Et bon, tu vois, tout le monde pourrait se dire qu'il n'est pas équipé de ça, ou qu'il y a des gens qui ne sont pas tous équipés. Mais en fait, si, il suffit d'avoir une boîte crânienne, et puis il y a ce boudinage à l'intérieur. Alors, comment ça fonctionne? Mais moi, je ne m'intéresse pas trop à savoir comment fonctionne le système limbique, le système reptilien, les zones occipitales, etc. J'ai tout donné, j'ai tout pris. Je me suis intéressé à tout ce discours. J'ai introduit en France, et en Suisse d'ailleurs aussi, et en Allemagne et en Belgique, j'ai introduit une méthode qui s'appelle la méthode Hermann, sur cerveau droit, cerveau gauche, système cortical, système limbique. On était en 1987. Et en 1986 déjà, d'ailleurs, et je me suis intéressé à ça, et j'ai introduit cette méthode avec un copain qui s'appelait Lionel Villemain, et avec lequel on a bossé pour pouvoir introduire cette méthode dont l'objectif était de comprendre comment fonctionne le cerveau humain et ce qu'il est capable de faire en termes de créativité.
C'est la pensée rapide, pensée lentement, ça, c'est pas
Non,
ça.
c'était pensée rationnelle, pensée intuitive. Pensée affective. Alors, c'était le cerveau droit, cerveau gauche, hémisphère droit, hémisphère gauche. Donc, les zones corticales, il y a deux zones corticale droite, zone corticale gauche, et zone limbique droit, zone limbique gauche. Ça te dit quelque chose? Non?
Un petit peu, en tout cas, j'ai vu que justement, je crois, le gars, il a gagné le prix Nobel, non? Qui parlait de ça, il y a une
Alors,
pensée rapide.
c'était pas Ned Herrmann, oui, c'est vrai, mais Ned Herrmann s'était inspiré des travaux de Roger Sperry, qui avait eu le prix Nobel de médecine en 1981, pour des découvertes, entre guillemets, parce que ce n'était pas vraiment des découvertes, mais c'était une théorie sur la latéralisation cérébrale. C'est-à-dire que quand tu regardes ça, On peut se dire, tiens, il y a deux hémisphères, hein, deux hémisphères. Il y a l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche. Et donc, on est équipé comme ça. Hein, et donc, l'hémisphère droit serait supposé, selon la théorie de Sperry, de Gazzaniga et Bogen, et donc reprise par Nederman, et pas que, l'hémisphère droit serait particulièrement créatif, dessinateur, visuel, etc. Ce qui est faux, hein, au demeurant. Hein, après, c'est bon, c'était une théorie, mais il a eu le prix Nobel quand même pour ça, Sperry. Et puis, l'hémisphère gauche, il serait très rationnel, symbolique, mathématique, etc. Bon, donc il y en a un qui serait analogique, l'hémisphère droit, analytique, l'hémisphère gauche. Voilà. C'était cette théorie-là qui a vraiment prospéré en entreprise, et pas que seulement en entreprise, dans le champ de la pédagogie. Il y a eu beaucoup de diffusion, et j'ai contribué à diffuser ça. J'ai fortement contribué. On avait eu des articles dans la presse, c'était absolument hyper médiatisé. Donc, on avait eu des articles dans une revue qui s'appelait Actuel à l'époque, 8 pages dans Actuel, ce qui était formidable, ce qui nous avait lancé. Ce qui nous avait lancé. On avait eu après dans les échos, dans Liaisons sociales, partout, on était partout, et partout on parlait de quelque chose de nouveau pour beaucoup de gens, c'était le cerveau. On était en 1980, hein, 86, hein. Donc c'était nouveau. À l'époque, personne ne parlait de savoir ce qui se passait dans la tête des gens. Et donc, on avait participé comme ça à développer ça en France. Donc, il y a eu beaucoup de théories, de développement. Et moi, j'ai abandonné ça parce que je me suis dit que c'était que du discours. Est-ce que c'était vraiment utile dans les relations? Je me suis aperçu que non. Est-ce que c'était utile de savoir qu'on a une zone occipitale, une zone frontale, l'aire de Wernicke, l'aire de Broca et tous ces trucs-là dans le cerveau? Oui, c'est de la curiosité intellectuelle. Donc, c'est toujours intéressant de savoir comment fonctionne la mécanique. Mais est-ce que je peux utiliser une voiture sans connaître le moteur? Ben oui, la plupart des gens fonctionnent comme ça. Ils montent dans une voiture, ils savent conduire et ils savent pas ce qui va pas. Donc, et puis quand ça va pas, ils l'amènent au garagiste. Seulement dans le fonctionnement humain, eh ben il n'y a pas de garagiste. Donc, il vaut mieux, c'est vrai, apprendre. Mais apprendre quoi? Déjà, quand je comprends que la pensée humaine, ma pensée, je ne la génère pas. Je ne la génère pas volontairement comme ça. Que je peux me concentrer et que je peux devenir maître de certaines manières de bâtir ma pensée. Je peux subir mon fonctionnement ou je peux structurer mon fonctionnement. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand j'écoute Descartes, René Descartes, qui disait, j'ai un discours, j'élabore un discours de la méthode pour bien conduire sa pensée, moi, je me suis dit, je vais développer, prendre une extension de ça, et je vais produire une méthode pour aider les autres à bien conduire leur pensée. Donc, ça veut dire intervenir sur la structuration de la pensée. Alors, non, je n'ai pas besoin que des gens fassent des démonstrations de pleurs, de cris ou d'épanchements émotionnels face aux autres. Ils l'ont déjà fait quand ils sont en conflit. Avec moi, quand je les reçois, je les aide à réfléchir. Et parfois, c'est la première fois de leur existence qu'ils réfléchissent. Donc, je les aide à structurer leur pensée. C'est ça. La
Est-ce que
différence.
est-ce qu'on pourrait appeler ton approche
La médiation
rationaliste?
professionnelle.
Oui, ça. Mais est-ce que pour peut-être rajouter un complément de descriptif, est-ce qu'on pourrait l'appeler rationaliste?
Oui, bien sûr. Ah, mais je suis très, très attaché à l'esprit critique et à la rationalité. C'est-à-dire que j'ai remarqué que, par exemple, pour aider des personnes à réfléchir, il faut les confronter parfois à des contradictions et que la rationalité est l'instrument de confrontation à la contradiction. Bah, tu vois, tout récemment, il y a une personne qui me dit, j'ai fait circuler cet exemple sur mon réseau, qui me dit, monsieur, il faut que je vous dise quelque chose. Tout à l'heure, dans la réunion, je n'ai pas été sincère. Et vous savez mon attachement à la sincérité. Je ne supporte pas que l'on mente. Donc, je vous le dis, je n'ai pas été sincère. Alors, c'est formidable d'entendre ça parce que la personne vient reconnaître qu'elle a menti. Et au nom de sa sincérité, elle me le dit à moi, mais elle ne le dit pas à l'autre. Donc, elle continue de mentir. Et elle ne s'en rend pas compte. Tu vois? Et elle est honnête dans ce paradoxe, dans cette contradiction. C'est le paradoxe du menteur par définition, hein. C'est incroyable. Et je me dis, mais voilà, la personne sincèrement vient plaider sa cause pour dire, j'ai pas été honnête, je veux être honnête, vraiment être intègre vis-à-vis de vous. Mais c'est pas vis-à-vis de moi que elle doit l'être. Et tu vois, elle ne le fait pas exprès. Eh bien, tu vois, cette posture-là de reconnaissance de l'autre dans sa maladresse, dans son ignorance, dans sa confusion mentale et relationnelle, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, l'autre originalité de mon approche, c'est la reconnaissance, la mise en pratique de la reconnaissance. Les gens ne le font pas exprès, ils sont de bonne volonté, fondamentalement maladroits. Et donc mon processus nécessite obligatoirement des entretiens individuels pour aider les personnes à structurer leurs pensées afin qu'ils puissent après venir dans cette posture extraordinaire, je dis bien extraordinaire, d'altérité lors de la réunion. Il faut qu'il y ait cette préparation.
Et dans tout ça, les émotions, tu les accueilles comment?
Eh bien, justement, par la légitimité, la reconnaissance de la légitimité des émotions. C'est-à-dire que, tu sais, ça, bien sûr que ça m'arrive, pas plus tard que la dernière fois, la personne pleure, c'est un conflit dans une entreprise, hein, dans une organisation, une collectivité territoriale. Et la personne, l'entretien a duré 1 heure et demie. La personne a bien pleuré pendant 3 quarts d'heure. Alors, évidemment que c'est de l'émotionnalité, évidemment qu'elle n'a pas fait que pleurer, parce qu'elle a hoqueté également des paroles, ce qui n'était pas forcément facile, mais voilà, et ça l'a aidé à progresser. La progression là-dessus, moi, le fait que des gens pleurent, ça ne me fait pas peur, hein. Les gens, ils pleurent. Il y a plein de gens qui pleurent dans des situations bien plus dramatiques que les situations que les gens connaissent dans les entreprises, dans les conflits qu'ils connaissent sur le plan relationnel. Il y a des, je vois bien qu'il y a des médiateurs pour qui le pleur est un drame. Pour moi, le pleur n'est pas un drame. C'est une manière de vider les glandes lacrymales. Et voilà, à un moment donné, quand il y a plus de pleurs, il y en a plus, il y en a plus, quoi. Et donc, ça permet aux gens de s'exprimer, d'exprimer autrement leur frustration, leur mécontentement, etc. Et c'est ce qu'il faut leur restituer. Tu vois, comme tu me dis, voilà, comment je me comporte par rapport, enfin, comment le médiateur professionnel se comporte par rapport à l'émotionnalité. Bon, évidemment que c'est pas de la joie. Hein, qu'on n'a pas dans l'enthousiasme, on n'a pas ça, puisqu'on est en situation de tension, situation de conflit, de changement, bouleversement, etc. Donc c'est plutôt du dégoût, de la tristesse, de l'amertume, des reproches, des remords, de la rancœur, de la rancune, c'est tous ces trucs-là qui sont là. Et donc de la récrimination, donc c'est comment on peut recevoir ça? Mais je dis par l'altérocentrage dont je parlais tout à l'heure, qui est de permettre à l'autre d'exprimer cl très clairement ses états émotionnels, et quand il n'arrive pas à mettre un mot dessus, c'est moi, c'est le médiateur qui met le mot dessus pour mettre un accélérateur à la pensée. C'est-à-dire qu'on n'attend pas dire à quelqu'un, vous êtes très affecté, vous êtes bouleversé, vous vous rendez compte que c'était difficile et que vous n'avez pas su faire et vous vous sentez coupable. J'attends pas que la personne dise ah mea culpa, mea culpa, mea culpa. J'attends pas ça du tout. Je lui dis, on met un accélérateur de pensée et en mettant ces mots dessus, on dédramatise. Oui, je suis un contributeur à la légèreté de la pensée et à l'éclosion de la pensée. Donc ça permet aux personnes de dédramatiser parce que si je peux mettre un mot sur quelque chose que les gens ressentent et qu'ils n'arrivent pas à nommer, eh bien, je mets un accélérateur. Et les gens, tu sais, s'approprient très, très bien le mot. Et si parfois je leur dis, ce que je l'ai fait, je dis, qui est-ce qui a dit, par exemple, tout à l'heure que vous vous sentiez coupable et que vous n'étiez pas content et que vous vous sentiez frustré? Et ils disent, c'est moi. Ils parlent d'eux, ils disent que c'est eux qui l'ont dit. Alors que quand on a la vidéo, on entend bien que c'est le médiateur qui a dit les choses. Mais les gens se les attribuent parce que je leur dis, d'une manière altérocentrée, ce que vous êtes en train de vivre, c'est, par exemple, un sentiment très fort de culpabilité. Et la personne dit oui. Et à ce moment-là, elle s'attribue le fait d'avoir dit le mot qui la libère et qui l'aide à structurer sa pensée. C'est-à-dire que sa pensée n'est plus une bouillie neuronale, mais c'est un tissu sémantique qui lui permet de penser. Parce que très souvent, l'état émotionnel, c'est une bouillie neuronale. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. Bon, il passe des trucs dans la tête, on ne sait pas ce qui se passe, on n'arrive pas à mettre des mots dessus. Mais par contre, quand on arrive à mettre des mots dessus, ah, je me suis senti frustré, oui, j'étais mécontent, j'étais en colère, j'étais insatisfait, et c'est la raison pour laquelle j'ai été réactif. On a une pensée qui s'est structurée par les mots, les choses deviennent plus claires, et on est beaucoup plus à l'aise, et on peut plus facilement se libérer de ces états émotionnels. Donc je suis pour que l'intervenant aide. Le tiers, le médiateur, aide les personnes à structurer leurs pensées et c'est l'occasion dans l'entretien individuel. Ai-je
Merci
bien
pour
plaidé
cette
ma cause?
ouais. Merci pour cette clarification. Peut-être même s'il n'y a pas de compteur, on va gentiment penser à
Oui.
conclure. Mais j'ai un dernier point. Si on peut peut-être en 2, 3 minutes encore parler du taux de réussite, parce que tu dis que tu vises, non pas que tu vises, que tu arrives à 100% de réussite.
Oui.
Comment faire?
Ben, c'est l'exigence que l'on a, hein, parce que tu sais, quand je dis ça, évidemment, je sais bien que des clients peuvent apparaître et puis faire leurs commentaires dessous, hein, en disant, mais moi, je suis dans telle société, voilà ce qui s'est passé, et ça n'a pas marché. Voilà. Eh ben, voilà, mon défi, il est là. Il est que quand on est médiateur, on pense en termes de résultats. J'ai été consultant d'entreprise. Mon exigence en tant que consultant d'entreprise, c'était le résultat. C'est-à-dire, j'ai toujours été confronté au résultat. Quand j'étais conseiller juridique dans une association de consommateurs avant, au tout début, et pour moi, ce qui était important, c'était d'arriver à des résultats, que ce soit lorsque je présentais des dossiers dans les ministères, que ce soit quand je présentais des propositions de réforme sur des textes de loi de différentes approches et différents contextes, que ce soit sur la santé, sur la distribution des plantes aromatiques ou médicinales. Je me suis même intéressé à ça dans mon antériorité. Et donc, j'ai toujours été intéressé par le résultat. Comme je disais tout à l'heure, avec le jeu d'échecs, le résultat me semble être important. En tout cas, ça me plaît de me dire ça. Donc, j'ai mis en place un processus qui a pour but de permettre au médiateur d'envisager les résultats. Je te donne un exemple. On va prendre un système standard avec deux personnes qui sont en conflit, parce que ça pourrait être plus, mais peu importe. Pour être une fratrie, pour une question d'héritage, mais on va prendre deux personnes. Et tu as une personne qui veut quelque chose et l'autre qui veut autre chose. Généralement, ça tire dans un sens ou dans l'autre. Le médiateur sait que ces deux personnes-là, par exemple, ont travaillé ensemble, ont vécu ensemble. Et qu'avant, ça se passait bien. Avant quoi? Avant qu'il y ait une incompréhension et des heurts relationnels, des propos désagréables, des pensées attributives comme il veut mon mal, il veut que me... et des démarches contraignantes. Hein. Donc il y a ces éléments-là, ces invariants, de la dégradation de la relation, une absence de reconnaissance de légitimité sur quoi que ce soit, sur les pensées, sur les actions, sur les intentions. Il y a la contestation, il y a de la surenchère dans dans la manière de s'exprimer. Donc il y a tous ces invariants-là qui vont faire que la relation va se dégrader. Le médiateur sait que s'il fait un travail sur la qualité de la relation, dans une perspective de dénouer ce qui a dégradé la relation, c'est-à-dire ces éléments que je viens de citer, et j'invite d'ailleurs ces personnes qui écoutent jusqu'à maintenant, ben, à reprendre éventuellement, vous allez voir, j'ai tout dit, en réalité, eh bien, que quand on fait le travail sur la requalification de la relation, il se peut qu'il puisse y avoir une première issue de possible. C'est la reprise de la relation telle qu'elle était avant.
C'est le
Avant le conflit.
statu quo ante.
Non, ce n'est pas un statu quo, c'est une reprise de la relation. Par exemple, on peut prendre, par exemple, deux collaborateurs, deux personnes, deux salariés qui travaillent ensemble. Il y a eu une incompréhension, ils se sont vraiment... Et puis après, bah, finalement, ça se passait bien, ils reprennent leur travail ensemble et ça se passe bien. Voilà, c'est possible de reprendre la relation telle qu'elle était avant et agréable. Ça peut paraître toujours étonnant, mais si on connaît si on maîtrise les ingrédients de la dégradation relationnelle et de la qualité relationnelle, alors je vous dis, c'est tout à fait possible. Mais il est possible aussi que ça, cette issue-là, ne soit pas possible. Pourquoi? Ben, par exemple, papa et maman sont en voie de séparation, l'un des deux a trouvé meilleure affaire ailleurs, et la relation ne peut plus se reprendre telle qu'elle était avant parce qu'il y a une nouvelle histoire qui a commencé. Et donc, c'est difficile d'imaginer que la relation va reprendre telle qu'elle était avant. Donc, la reprise, non. Alors, il reste deux issues possibles. L'aménagement de la relation ou la rupture consensuelle. C'est-à-dire, la rupture, c'est on ne se voit plus, mais c'est consensuel, donc on fait en sorte que la rupture soit la moins agressive possible pour l'un et pour l'autre. On va revenir. L'aménagement de la relation, mais il y a plein de possibilités d'aménagement d'une relation. Soit on ajoute quelque chose dans une relation, soit on retire quelque chose, soit on ajoute et on retire, soit on bouge des éléments de la relation. Donc, vous voyez, il y a trois manières qui se combinent pour l'aménagement de la relation. Donc, c'est complètement anticipable. Et quand on regarde la relation, admettons par exemple que on prend papa-maman. Faire simple, on pourrait le prendre la vie de salarié, mais bon, peu importe, ça peut vous inspirer. Papa-maman, quand je dis papa-maman, ça veut dire qu'ils ont des enfants, hein. Donc, il y a des
Il y a une
éléments.
coparentalité à mettre en place.
Voilà. Donc, ça ne sera pas une rupture. On comprend tout de suite que ça ne sera pas, si par exemple, en admettant maman ou papa a rencontré quelqu'un d'autre. Donc, ça ne sera pas la reprise. En tout cas, pas tout de suite, pas avant 2 ans. Hein? Bon, peut-être plus, mais bon, peu importe. Donc, ça ne sera pas la reprise de la relation. Ça ne sera pas la rupture de la relation. Eh non. Parce que la rupture de la relation, ça voudrait dire que l'un des deux abandonne, ce qui n'est pas impossible, hein, mais abandonne définitivement les relations avec les enfants. Donc, ça sera un aménagement. Et l'aménagement relationnel va porter sur les aspects que je viens de citer. Soit on bouge des éléments de la relation, soit on ajoute quelque chose, soit on retire quelque chose. Et on peut ajouter du temps, de l'argent, de la relation. Ça porte là-dessus. On sait sur quoi. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand un médiateur intervient, il fait un accompagnement de projet relationnel. Il ne fait pas la résolution de conflit. Ce n'est pas le conflit qu'il a en tête. Le médiateur professionnel a un projet relationnel en tête. Et il regarde ce qui s'élimine au fur et à mesure où il progresse. Et il le dit aux personnes en face. Il leur dit, tiens, L'un, déjà, ce que vous êtes en train de faire, peut-être, c'est que vous êtes déjà en train d'éliminer la possibilité de reprendre la relation telle qu'elle était avant. Et là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'éliminer l'aménagement relationnel. Ce que vous êtes en train de faire, etc. Donc, s'ils éliminent les trois, tu comprends bien que là, c'est pas possible. Parce que c'est pas possible. Donc, obligatoirement, le médiateur va devoir faire preuve de compétence dans le champ de l'accompagnement de projets relationnels. On sort de la conflictualité, et c'est ça, pour moi, la profession de médiateur, tu vois. Tu me disais quelle était l'originalité. Ben, l'originalité de la profession de médiateur, c'est faire de l'accompagnement de projets relationnels avec une technicité qui s'appelle l'ingénierie relationnelle.
Où tu as aussi publié un livre, je crois, sur ça. Sur ça.
Oui.
Et écoute, ça ferme la boucle. C'est une belle conclusion de ce podcast. Je te remercie beaucoup. C'était très inspirant, très intéressant. Donc, je rappelle ton livre. On a surtout parlé là autour pratique de la médiation professionnelle. Bon, on a élargi à beaucoup d'autres choses. Tu as aussi le livre L'ingénierie relationnelle et d'autres. Donc, je mettrai des liens dans le descriptif de cette vidéo. Et
Médiation en milieu hostile aussi, c'est super.
médiation au milieu hostile, oui. Et voilà, bah, je te remercie pour ce podcast et pour ton engagement. Comme tu as dit, neutre et engagé. On le voit très bien. Je te remercie.
Merci beaucoup, Pascal, de ton accueil.
C'était un grand plaisir d'échanger avec toi.
Et j'espère bien, comme je te disais en amont, que nous aurons l'occasion de faire des actions ensemble
Avec
auprès
plaisir.
du public. En Suisse, pour former des médiateurs, et que ce soit des avocats, des DRH, des personnes engagées dans le dialogue social et des collectivités territoriales. Nous, on le fait beaucoup en France. On a déjà beaucoup d'avocats en Suisse qui sont médiateurs professionnels, et j'espère partager avec toi ces grands moments de formation de médiateur.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Jean-Louis.
Merci, Pascal.
À bientôt.